Yovi, Boker Tov les Koulam, Boker Tov les Koulam. Alors, je vais attendre quelques secondes que tout le monde puisse rejoindre soit le Zoom, soit le YouTube, mais on est prêt. Hop là, ça marche. Yovi, alors. Ok, top. Alors, je vois que les gens sont pas forcément bon. Écoutez, hein. De toute façon, dans tous les cas, le cours sera enregistré et on pourra le retrouver sur YouTube. Donc, ceux qui n'auront pas réussi à se connecter maintenant, eh bien, vous pourrez le retrouver quoi qu'il arrive. Yofi, ça c'est fait, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, alors je vous propose de commencer et puis s'il y a des gens qui vont nous rejoindre pendant le cours, voilà, super. Alors allons-y. Boker Tov Lekoulam et donc bienvenue pour notre nouvel épisode de la, ce qu'on appelle la Nevouah dans tous ses états. On revient dans notre étude du Tanakh. Évidemment, et nous sommes arrivés dans le livre de Melachim Aleph. Nous allons reprendre au chapitre Tetzain. Alors, le cours, alors pas de la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'est Hanouka, mais de la semaine d'avant, nous avions étudié, nous avons commencé à étudier le schisme. C'est-à-dire que nous avons vu la séparation, la scission entre le royaume d'Israël au nord et le royaume de Yehuda au sud. Nous avons vu que la personnalité qui va amener à la scission, c'est le prophète Achia Ashiloni, c'est lui qui va couronner Yerovam ben Nevat. Et donc, eh bien, suite à cela, nous avons maintenant deux royaumes, et il faut deux secondes se représenter l'époque, parce que, vous savez, dans notre génération, on va dire dans les années 50-60, il y avait une guerre ouverte entre Ashkenazim et Sfaradim. On ne se mariait pas les uns les autres, les uns ne connaissaient pas les autres, et ainsi de suite. Mais soyons très honnêtes, c'était rien comparé à la scission, à la scission du schisme. Imaginez-vous, on a deux royaumes différents, le royaume d'Israël au nord, le royaume de Yehuda au sud. Il y a un mur, pas seulement mental, mais physique, entre les royaumes. Alors, mur qui va être enlevé au fur et à mesure du temps, mais on s'imagine quand même que on parle d'une scission complète, à tel point que des fois, les événements qui touchent le royaume d'Israël ne vont absolument pas avoir d'écho dans le royaume de Yehuda, ou l'inverse, les événements du royaume de Judée n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Israël, ou alors, il peut y avoir pire, nous allons même avoir des événements, des moments où le royaume d'Israël et de Yehuda vont se faire la guerre. Imaginez-vous, entre juifs. Donc c'est une situation extrêmement compliquée. Dans cette situation compliquée, eh bien, nous allons avoir le dévoilement de plusieurs prophètes qui vont soit avoir pour rôle de parler au royaume de Judée, de Yehuda, soit de parler au royaume d'Israël. À partir de maintenant, il n'y a plus une personne qui va s'occuper de tout le Ham Israël. Donc, soit vous avez les névoïotes qui touchent au royaume de Yehuda, soit vous avez les névoïotes qui touchent au royaume d'Israël. En général, les névoïotes du royaume d'Israël sont marquées ici dans Sefer Melachim ou alors dans Tréhassar, dans ce qu'on appelle les petits prophètes, hein, pas qu'ils soient petits dans leur niveau, mais que ce sont des livres avec moins de chapitres. Et en général, les névoïotes du royaume de Yehuda sont plus concentrées dans le livre de Yishayahu, de Yirmiyahu, de Yechezkel. Ok ? Et donc, cela nous amène à parler aujourd'hui, donc on va commencer dans la fin du chapitre Tetzain. On s'était arrêté, si je ne m'abuse, la dernière fois, au chapitre Yudalef Yudbet. Nous sautons maintenant au chapitre Tetzain, fin du Tetzain, et nous allons partir à la découverte d'un personnage incroyable. Un personnage incroyable Et j'ai envie de dire, c'est peut-être le seul personnage biblique qu'on connaît beaucoup plus par rapport à ce qu'il est dit sur lui à l'extérieur de la Bible, plutôt que ce qui est dit dans la Bible. Eh oui, on va parler aujourd'hui, alors je pense que ça va être un cours en deux épisodes, parce qu'on n'aura pas le temps en une fois de faire tout le tour, on va parler de Eliyahu HaNavi. Zéou, Iganou, on est arrivé à Eliyahu HaNavi. Et quand on dit Eliyahu, évidemment que ça fait tout de suite référence à plein de choses. Parce que quand on parle d'Eliyahu HaNavi, Rabotai, eh ben, ça fait référence à Brit Mila, ça fait référence à Eliyahu HaNavi, on attend le prophète Élie, et ainsi de suite. C'est-à-dire que Eliyahu a une place extrêmement importante dans la conscience collective du peuple juif, dans la tradition d'Israël. On raconte sur lui énormément. Le Talmud va parler très souvent de dévoilement d'Eliyahu. Je rappelle, par exemple, que la première Agada du Talmud, dans le traité de Brachot, page 3, première Agada du Talmud, eh bien, on va tout de suite nous faire rencontrer Eliyahu HaNavi. Donc, si vous voulez, le prophète Élie, comme on l'appelle en français, Eliyahu HaNavi, eh bien, il a une aura, j'allais dire peut-être plus grande, dans son identité post.
C'est bon.
Donc je dirais, il a une aura grande dans son identité post-tanachique que dans son identité de la Bible du Tanakh. Et pourtant, nous allons étudier le Tanakh. Donc nous, on va essayer de comprendre qui est Eliyahu dans le Tanakh. L'objectif, c'est qu'à la fin de notre étude sur Eliyahu, à mon avis, la semaine prochaine, eh bien, nous puissions le rattacher avec le Eliyahu de la tradition d'Israël. C'est-à-dire, donc, venez, on rentre dans le vif du sujet, chapitre Tetzain, donc chapitre 16, verset Lamed Dalet. En d'autres termes, le dernier verset du chapitre Tetzain. Eh oui, car si on veut comprendre qui est Eliyahu, il faut comprendre quel est le contexte de son apparition. Comment Eliyahu arrive ? Pouf, comme ça ? On a vu, Achia Shiloni a été envoyé pour prophétiser le schisme. Quel est le contexte de l'apparition d'Eliyahu HaNavi? Eh bien, le contexte de son apparition, c'est qu'il devra faire face, d'ailleurs il va faire face pendant tout son mandat, si vous voulez, de prophète, à son pire ennemi. Quel est le pire ennemi d'Eliyahu? Alors, Ahab, c'est pas vraiment son ennemi. C'est-à-dire que c'est le roi d'Israël à son époque, et il fait n'importe quoi, mais Ahab n'a pas le niveau, si vous voulez, de pouvoir faire face à Eliyahu en termes de présence, en termes d'importance. Il y a quelqu'un d'autre qui est l'alter ego, si je puis dire, de Eliyahu HaNavi. Qui est-il? Eh bien, prenons donc le chapitre Tetzain, verset Lamed Dalet, c'est parti. Beyamav, donc Beyamav shel Achav. Effectivement, Achav est le roi d'Israël, et on nous dit, non Alex, ce n'est pas Isabel. Isabel, c'est comme son nom l'indique, une poubelle. C'est-à-dire qu'elle non plus, elle n'a pas de carrure. C'est-à-dire, elle fait beaucoup de mal, mais c'est Stam, une réchaïte. Non, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus puissant. Et évidemment, comme je le présente comme étant quelqu'un de très très important, eh bien, personne ne le connaît, évidemment. Ben oui, mais sinon, ce ne serait pas drôle. Nous dit la Torah. Pardon ?
Le Baal.
Non, le Baal, ce n'est pas quelqu'un. C'est une idolâtrie. Non, moi, je parle de quelqu'un, d'un monsieur, ma mâche. Eh bien, ce monsieur, les amis, pourquoi inventer ? Prenons le texte. Donc, chapitre Tetzain, verset Lamed Dalet, Beyamav. Bana Chiel Betaeli et Yericho Beaviram Bechoro Yistoda ou Besegouv Tseiro et Siv de la Terre Kidvar Hashem Asher Diber Beyad Yoshua Binun. Ma Karapo. Qu'est-ce qui se passe? Alex, non, pas Elisha. Enfin, Elisha, c'est l'élève de Eliyahu. Ma kesher. Non, il s'agit ici, vous aurez compris, de Riel. Riel, bête à Élie. Mais qui est donc ce Riel? Qu'est-ce qu'on apprend sur lui? Dans le Tanakh, il n'a le droit qu'à un verset. Voilà, c'est le verset qu'on a lu. C'est tout ce qu'on sait de lui dans le Tanakh. Chazal vont nous expliquer qu'il a fait plein d'autres choses. Mais qui est ce personnage? D'abord, je sais qu'il vient de Bethel. Ok, Riel, Beth à Eli. Donc ça veut dire qu'il vient de Bethel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est sa grande action? Eh bien, on nous dit qu'il a... Exactement. Il a construit Yericho. Ok. Azma. Quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est que Yehoshua bin Nun a interdit de construire Yericho. Yehoshua, c'est lui qui va conquérir la terre d'Israël. La première conquête, c'est la ville de Yericho. Et Yehoshua va la détruire complètement. Et il fait une klala, une malédiction, pas sur la ville, mais sur toute personne qui voudrait la reconstruire. C'est-à-dire, si tu te balades à Yericho, il n'y a pas de problème. Tu as le droit de te balader dans les ruines de Yericho. Mais tu n'as pas le droit de reconstruire la ville de Yericho. Et nous dit Yehoshua, celui qui reconstruira Yericho, eh bien, tous ses enfants mourront. Ok. Voilà ce que Yehoshua nous dit. Alors, Yehoshua, c'est à l'époque de l'entrée en Israël. Nous sommes plus ou moins, 500 ans après. Puisque le Beth Amikdash est construit 480 ans après la sortie d'Égypte. Disons qu'on est rentré en Israël après 40 ans dans le désert, donc le Beth Amikdash, c'est 440 ans après la rentrée en Israël, c'est ça, 440 ans plus tard, et nous sommes après 40 ans de règne de Shlomo, et Achav, c'est pas juste après Yéroboam. Donc ça veut dire que nous sommes plus de 500 ans après la malédiction de Yehoshua. Et donc, que faire? Pardon? Alors, quelqu'un me dit ici, c'est pour montrer que les prophéties des élèves Yehoshua ont prévalence sur celles des maîtres Moshe. Lama, pourquoi tu dis cela?
Pas du tout.
Pourquoi tu dis cela? Quoi, Moshe, il avait dit, il faut construire Yericho? Et Yehoshua, il l'aurait contredit en disant, il ne faut pas construire Yericho? La vérité, je ne sais pas ce que tu veux dire. J'ai envie d'être d'accord avec toi, mais je ne sais pas si tu penses comme moi. Parce que si tu penses que Moshe, il a dit qu'il fallait construire Yericho et que Yehoshua, il l'a contredit, alors non. Moshe, il n'a jamais dit, il faut construire Yericho. Donc, Yehoshua a donné une klala. Il a dit, celui qui construit Yericho, tous ses enfants a pu terminer. Ok. Ah, il a fait. Avodah Zara. Alors, tu as raison. Mais c'est pas vrai que ça prévalo, ça prévaut, ça ne prévaut pas, mais on va voir justement de quoi il s'agit. Deux secondes. On va y revenir un petit peu plus tard. La question est de savoir, est-ce que 500 ans plus tard, Riel pense que la klala de Yehoshua va marcher? Ben, on est en droit de se dire que peut-être que Riel ne croit pas à la klala de Yehoshua. Peut-être que c'est ça, mais à ce moment-là, lorsque il commence à construire Yericho, eh bien son premier fils meurt. Et nous dit le Talmud que à chaque étape de la construction, un de ses autres enfants meurt. Il a 7 enfants. Donc, à un moment donné, il doit bien se dire, bon ben la klala de Yehoshua, elle marche. Puisque à chaque fois que je commence à construire ou que je continue, un de mes enfants meurt comme Yehoshua l'a dit. Donc, pourquoi il continue? Ces 7 enfants vont y passer. Puisque l'inauguration de la ville de Yericho par Riel, lorsqu'il va y mettre les portes de la ville, eh bien, voit également la mort de son dernier fils, Ségouv. Donc, la question, on est en droit de se la poser. Pourquoi notre ami Riel, eh bien, il va être prêt à sacrifier ses 7 enfants pour construire la ville de Jéricho. En plus, c'est pas comme s'il habitait là-bas. Il vient de Bethel. Donc pourquoi il fait ça? Eh bien, pour une raison très simple. Et c'est en cela qu'on va comprendre en quoi il est l'alter ego de Eliyahu. Riel est un fanatique de la Kdushat Haaretz, de Kdushat Medina, de Kdushat Eretz Israël. Pour Riel, c'est une terrible erreur qu'a faite Yoshua de dire que une part de la terre d'Israël devra éternellement rester une ruine. Il ne peut pas intégrer qu'il y ait une partie d'Eretz Israël qui ne puisse pas être construite. Il est fan de Eretz Israël. Pour lui, ça passe au-dessus du reste. Tov, Zéafez, Zégadol. Ken, Zégadol. Mais pourquoi Yoshua il a dit qu'il fallait détruire, enfin qu'il fallait pas reconstruire Jéricho?
C'est la première ville.
Et alors?
Elle était sacrée.
Lama.
C'est comme le Maaser.
Alors plus que le Maaser, pas le Maaser. Plus que le Maaser, c'est Trouma. Anita, c'est pas Maaser, c'est Trouma que tu veux dire.
D'accord, vous avez raison.
D'accord? Donc c'est Trouma, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est comme Chala. C'est-à-dire, la première chose que Dieu nous donne, on le consacre à Dieu, et donc ce n'est pas pour nous. Mais pour cela, il faut accepter qu'il y ait une Kedusha. Nahon, est-ce qu'il aurait construit Yericho l'Eshem Shamaim? Il aurait construit Yericho l'Eshem Shamaim, du moins de son point de vue. C'est une erreur. Mais pourquoi c'est une erreur? Eh bien parce que la Kedusha de la terre d'Israël trouve sa véritable place lorsqu'on comprend que la Kedusha, elle est d'abord reliée à Dieu. C'est-à-dire que la notion de Kedusha, elle n'est pas en premier lieu la Kedusha de quelque chose. Il y a la Kedusha pour la Kedusha. Et donc, le fait que la première de mes choses, je le donne à Kadosh Baruch Hu, ça montre que quoi qu'il arrive, la dimension de Kedusha, elle est d'abord intrinsèque à l'identité de celui qui me le donne, et seulement après, je peux faire descendre la Kedusha dans ce monde. Ainsi, lorsque Riel fait ce qu'il fait, eh bien, le pasouk qui suit nous dit « Vayomer Eliyahu ». En d'autres termes, il semblerait que Eliyahu vient pour faire le contrepoids de Riel Bet Haeli. Ok ? Maintenant, on va essayer de rentrer et de comprendre qu'est-ce qu'il dit Eliyahu. Mais vous comprenez que Eliyahu est un personnage absolument incroyable parce que, d'après le Tanakh, on ne sait rien de lui. On ne sait rien de lui. D'après le Tanakh, on ne sait pas s'il est marié, on ne sait pas s'il a des enfants, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas s'il a des parents. On ne connaît rien de lui. On nous dit « Vayomer Eliyahu atishbi mitoshve Gilad el Achav ». Mais il n'est pas Giladi. Nous, on l'appelle dans la tradition juive « Eliyahu a Giladi » ou « Eliyahu atishbi ». Mais dans le texte de la Torah, on ne nous dit pas qu'il est Giladi. On nous dit qu'il est mitoshevé Gilad. C'est-à-dire qu'il habite avec les gens de Gilad. Mais on ne nous dit pas qu'il est lui-même Giladi. Quel est le problème? Eliyahu, il est un petit peu, et on va le voir tout au long de notre étude, il est un petit peu comme Moshe. Moshe non plus, on ne connaissait pas vraiment son identité. Du moins, la Torah nous avait volontairement caché son identité. On ne nous dit pas qui sont ses parents dans la Torah à la base. On dit un homme de la tribu de Lévi, une femme de la tribu de Lévi. Eliyahu est un extrémiste de la Kedushat HaKadosh Baruch Hu. Sichiel était un extrémiste de la Kdushat à Aretz, Eliaou est un extrémiste de Kdushat à Kdushat. Et il est donc son alter ego, si vous voulez. Vayomer Eliaou atishbi mitoshvei Gilad el Achav, Chai Hashem Elohe Israel, Asher amadeti lefanav, im yeh hashanim haele, tal umatar, ki im lefi devari. Quelle est la première chose qu'on apprend sur Eliaou? C'est qu'il va arrêter la pluie. La Mamakara. Eh bien, nos sages nous disent dans le Talmud que lorsque Priel a fait l'inauguration de Yericho, eh bien, son dernier fils est mort, le dernier des sept. Eh bien, nous dit le Talmud que deux personnes sont venues à la Shiva. Ces deux personnes, c'était Achav, Melech Israël, qui lui aussi était un adepte de la puissance technique du pays. Et la deuxième personne qui vient à la Shiva, c'est Eliaou. Et à ce moment-là, pendant la Shiva, Riel va dire à Eliaou qu'il y a un problème. Riel lui dit, je comprends que mes enfants soient morts. Parce que Yehoshua, il a fait une clala, il a dit, si jamais vous construisez Yericho, celui qui le construit, tous les enfants vont mourir. Donc, ça, je le comprends très bien. Et je respecte cela, j'étais prêt à ce que mes enfants y meurent pour mon idéal de construire Yericho. Aval, Moshe, il a fait aussi une clala. Et il a dit que si vous faites Avodah Zarah, lo yeh matar. Il n'y aura pas la pluie. D'accord ? Où c'est marqué ça ?
Dans
le schéma. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils disent les Sfaradim à voix basse dans le schéma ? Ishameru lachem, peintel bachem, sartem, paratem imacherim, vishtavitem lahem, vicharaf, hachem bachem. Vema ? Donc, nous dit Moshe, si jamais vous faites Avodah Zarah, lo yeh matar, il n'y aura pas la pluie. Or, là, le mec qui est à ta gauche te présente Achav Melech Israël, il a rempli tout le pays de Avodah Zarah, et pourtant, il pleut tellement que la charrue, elle est embourbée dans la boue. Tellement il pleut. Nous, alors quoi ? Yehoshua, ça passe, mais Moshe, ça passe pas ? Réponse d'Eliaou. Ah ben, puisque c'est comme ça, j'arrête la pluie. Eliaou est canaï le Moshe. Et donc la Hachem, évidemment. C'est-à-dire que Moshe, Eliaou, il dit, ah ben, tu vas voir si la clala qui a marqué dans la Torah, elle ne se réalise pas. Tu vas voir. Mais sauf que Eliaou vient de s'approprier une des quatre maftechot d'Akadosh Baruch. Nous dit le Talmud, quatre clés sont entre les mains uniquement de Dieu. La première, la clé de la pluie. La deuxième, c'est de la naissance. La troisième, c'est la clé de Triat Hametim, de la résurrection des morts. Vebema Arava, c'est-à-dire Be'eretz Israël, ils disent qu'il y en a une quatrième de clé, c'est la clé de la Parnassa. Ok ? Quatre clés qui sont normalement entre les mains uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Eliaou, on va voir, dans sa carrière, il s'approprie les quatre clés. Eliaou, on a dit, tout son truc, c'est Kanaï la Hachem. Vous comprenez donc pourquoi nos sages vont dire que Pinchas, c'est Eliaou. Pinchas, lui aussi, voilà Kanaï la Hachem. Face à l'action de Pinchas contre Zimri et Cosby. Donc on voit que Eliyahu va faire ce que son ancêtre Pinchas avait fait avant lui, et il va décider de protéger la dimension de Kdusha pour la Kdusha. Alors allons-y. ואמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב חי השם אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השמי השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי ויהי דבר השם אליו למור לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן והיה מהנחל תשתה ואת האורבים ציוויתי לחלקך שם וילך ויעש כדבר השם וילך וישב בנחל קרית, בנחל קרית אשר על פני הירדן. והאורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב מן הנחל ישתה. הרי מקץ ימים ויבש הנחל כי לא היה גשם בארץ. אליהו זה ביזאר, אה? אליהו זה כלכן? כי זה כאילו ימין המושה? לקורבו. לקורבו לו ימין המושה. Il ne fait pas partie... Pardon ?
La viande.
La viande et du pain. Ben, il faut un sandwich, quoi. Mais ça veut dire qu'il est l'obé, mettre Baolamazé. Dans ce monde, ça n'existe pas que les oiseaux, ils m'amènent à manger. Nahon, on voit que Eliyahu, il n'est pas très... on va dire... Il ne s'entend pas très bien avec ce monde. A-t-on le droit d'être jaloux de Dieu? Où Eliyahu a été reproché de ça? Eh bien, on va voir. On va voir, l'athlète. Ok? Donc. Allô, allô? Il y a quelqu'un ici? Qui c'est qui me fait bugger? Voilà. Bekitsour, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Alors, Guiné, on continue. Donc, je suis au verset 13. Vaïe devar Hashem elav lemor. Koum lech tsarfata. Va où? En Tsarfat? Non, alors, c'est pas la France. C'est pas la France. Le Tsarfat, ici, c'est Sidon. C'est à côté de Beyrouth. C'est le Liban. Ok? Donc il lui dit l'Ertzorfata. À l'époque, il y a des Juifs qui habitent là-bas aussi. On dit l'Ertzorfata asher le Tzidon ve'yashavta sham hinne tziviti sham isha almana lechalkelcha. Tu vas aller vivre chez une dame veuve et c'est elle qui va te subvenir à tes besoins. Quand va l'Ertzorfata ve'avol petachayir ve'hinne sham isha almana mekosheshet etzim. ויקרא אליה ויאמר, כחינה לי מעט מים בכלי ואשתה. ותלך לקחת ויקרא אליה, ויאמר, לקחינה לי פת לחם בידך. ותאמר, חי השם אלוהיך, אם יש לי מאוג, כי מלוא כף קמח בקד, ומעט שמן בצפחת. והנני מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתי הוא לי ולפני, ואכלנו ומתנו. Eliyahu, il vient et lui dit, donne-moi à manger et à boire. Et la femme, elle dit, allô, je n'ai en tout et pour tout que ce petit sac de farine et cette petite fiole de l'huile. C'est tout ce que j'ai. Donc, je ne peux pas te donner quoi que ce soit. Je suis venu pour pétrir, moudre ma farine et faire du pain pour mon fils et moi, parce que sinon, on va mourir. La situation est assez compliquée. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait, Eliyahu? Vayomer Elea Eliyahu, Al Tiri, Boi Asi Kedvarech, Ach Asili Misham Uga, Ketana, Barishona, Veotzetli Velach, Velivnech, Taasi Baharona. Elle dit très bien, fais ce que tu as dit. Tu as dit que tu allais faire du pain, ok, mais fais-moi aussi à moi un gâteau. Et tu me fais d'abord à moi le gâteau. Et après, avec ce qui reste, tu feras à toi et à ton fils. Qui koramar Hashem Eloé Israël, kada kemar lotichle va tzapachat Hashem en lotichsar ad yom ten tet Hashem geshem al pene adama. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, ne t'inquiète pas, fais-moi d'abord pour moi, et je peux t'assurer que ton sac de farine et ta fiole d'huile ne se tariront pas jusqu'au moment où il repleuvra. Mais effectivement, c'est ce qui se passe. Voilà, Eliyahu vient de s'approprier la deuxième clé. Mafteach Aparnassa. D'abord, il a dit, quand moi je dis il pleut, quand moi je dis il pleut pas. Et maintenant il a dit, et quand moi je dis, t'inquiète pas, il y aura de la Parnassa. Et quand je dis pas, ben, il y aura pas de Parnassa. Donc Eliyahu vient de s'approprier la deuxième clé. Ok, génial. Vehi achar devarim haele. Chala ben Aisha ba'alat ha'bayit. Vehi chelio chazak meod ad asher lo notra bo neshama. Vatomer el Eliyahu, ma li velach, isha Elohim, bata elai laskir et avoni ulanit et beni. Depuis que t'es là, il y a des problèmes. Mon fils, il allait très bien avant. ויאמר אליה, תני לי את בנך, ויקחהו מחיקה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על המיטתו. ויקרא אל השם, ויאמר השם אלוהי, הגה ממעל האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הרי אותה להמית את בנה. ויתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל השם ויאמר, השם אלוהי, תשוב נא נפש הילד הזה אל קרבו. וישמע השם בקול אליהו ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. ויקח אליהו את הילד וירידהו מן העלייה הביתה ויתנהו לאמו ויאמר אליהו ראי חי בנך. זאת אומרת האישה אל אליהו עד כזה ידעתי כי איש אלוהים אתה ודבר השם בפיך אמת. Voilà, voilà, voilà. Attends, il y a une question ici. Pourquoi justement Élie et son élève Élisha sont les prophètes des miracles? On ne retrouve nullement ce phénomène chez les autres prophètes. Ça fait un peu Merlin l'Enchanteur qui parcourt le monde là. Alors, je vais répondre d'abord à pourquoi c'est Élie et Élisha. Élisha, je ne peux pas te répondre parce que on ne l'a pas encore étudié. Mais Eliyahu, on commence à l'étudier et je peux te dire, mais de la même façon que Moshe, il fait les miracles, eh bien, Eliyahu, il fait les miracles. On a dit, Eliyahu, il est un parallèle de la Neshama de Moshe. Maintenant, est-ce que ça ne fait pas un peu Merlin l'Enchanteur qui parcourt le monde, là? Nachon, c'est Nachon. Mais Kitsour, Eliyahu, qu'est-ce qu'on vient de lire? Il vient de s'approprier la troisième clé. Il vient de faire Triat HaMetim. Bon, alors, évidemment, je te rassure, dans la critique biblique, qu'est-ce qu'on fait de ce verset-là, de ces versets-là, de ce chapitre? Eh bien, on te dit, il a juste fait la formation de Mada. C'est tout. Le mec, il a eu, je sais pas, il a dû avoir une crise cardiaque, et lui, Eliyahu, il a juste fait un massage cardiaque. On nous dit qu'il s'est mis sur lui trois fois. Bon, il a dû faire 1, 2, 3, 4, 5, et là, vous savez comment ça marche. Tu fais 20 pressions sur le thorax, et ensuite, 2 aspirations d'air, il a dû faire ça 3 fois, et il est revenu. Oh, tu parles d'un miracle. Bon, ça, évidemment, ça, c'est la critique biblique. Mais nous, on voit quelque chose de beaucoup plus simple. La Torah nous dit tout simplement qu'il était... La mythe est béni. La femme, elle dit, il est mort. C'est où? Et donc, à ce moment-là, Eliyahu, il va le ressusciter. Ni plus, ni moins. Donc, il s'approprie la troisième mafteach. Mafteach, j'ai pris à ta médine. C'est-à-dire qu'on est en train de voir quelqu'un qui joue véritablement le rôle du dévoilement de Dieu. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, moi je suis là pour la kanaout que j'ai de la Kdusha à Eliona, donc tout ce qui est normalement dans les mains réservées de Dieu, je vais vous montrer comment ça marche. Et ça continue, ça ne s'arrête pas. Veyamim rabim udvar Hashem haya el Eliyahu b'shana shlishit lemor lech erae el achav v'etena matar al pnei adama v'yelech Eliyahu leharot el achav v'erav chazak b'shomron v'yikra achav v'obadiyahu asher habayit v'obadiyahu haya yarei et Hashem me'od v'yikra achit izzevel et nevi'i Hashem v'yikra obadiyahu me'a nevi'im v'yichbihem 50 ish b'me'ara v'chilkei lehem mayim v'lechem v'lechem v'mayim v'yomer achav el obadiyah לך בארץ אל כל מעייני המים ואל כל הנחלים, אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד, ולא נחית מהבהמה. וחלקו להם את הארץ לעבור בה, אחאב הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיה הלך בדרך אחד לבדו. עובדיה זה הצדיק. עובדיה זה כלכן כי יראה השם, וכי בפרוטג'ה לנביאים. Parce que nous, on parle d'Eliyahu Hanavi. Mais il y en avait plein d'autres des Neviim à l'époque. Ils sont tous pourchassés par Isabel, qui veut tous les massacrer. Et donc, lui, il va prendre sur lui de financer et de cacher 100 prophètes. C'est énorme. C'est un grand tzadik, ce Ovadia. Et Achav, il le sait. C'est pour ça qu'il se dit, le seul qui peut parler, adoucir, Eliyahu, c'est quelqu'un eh bien, qui respecte la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Yireh Hashem. Puisque Eliyahu, c'est quelqu'un qui est fan d'Hashem, seul un Yireh Hashem peut parler avec Eliyahu. Abotai, ma korepo. Finalement, il va retrouver Eliyahu. Il va retrouver Eliyahu qui a promis d'ailleurs à l'Aïcha Tzofit un autre fils. Un autre fils qui montre que Eliyahu, eh bien, il s'est approprié la quatrième matriarche de la naissance. Et lorsqu'on va venir voir Eliyahu, alors Eliyahu, il dit, mais il y a un problème. Vous m'appelez pour que j'enlève la malédiction, que je ramène la pluie. Mais comment vous voulez que je ramène la pluie? Vous êtes tout le temps dans la Avodah Zara. Donc je ne peux pas enlever la pluie. Que faire ? Ben, pas de problème, nous dit Eliyahu, puisqu'on l'a retrouvé finalement, et Eliyahu se cache, est faux.
Dans la cave.
Et c'est
cave. À la carmel.
Ah, pas de voir, pourquoi tu es dans une cave ?
Ah, c'était une cave où il se cachait.
Bon, d'ailleurs, l'okatou de cave. Hein ? Ah, Mehara, c'est pas une cave. Mehara, c'est une grotte.
Same thing for me.
Ah oui, mais non, parce qu'une cave, c'est fait par l'homme. Une grotte, c'est fait par Dieu.
D'accord. On est d'accord.
On est d'accord. Et en fait, Achar, entre parenthèses, là où on emmène les touristes au-dessus de Haïfa, voilà, Mehara, c'est Eliyahu. Hein, je veux pas mettre les gens dans des situations compliquées, mais enfin franchement, hein, la grotte d'Eliyahu, là où le bus il te dépose, que c'est même pas vraiment une grotte. Alors tu me diras, pourquoi pas, hein, c'est le Carmel c'est grand, peut-être que c'était là-bas. Bon, d'accord. Hein, yala, on va pas débattre là-dessus. Finalement, Eliyahu est donc Béar Carmel. Ovadia retrouve Eliyahu, lui dit qu'il faut faire quelque chose. Et donc, va Yomer Eliyahu. Je suis au chapitre 18, verset Tetvav. Va Yomer Eliyahu, Chai Hashem Tzivot, Chai Hashem Tzivot, Asher Amati Lefanav, Ki Ayom Erae Elav. וילך עובדיהו לקראת אחיו ויגד לו, תהיה, איביין, ג'רי של קומק. ואז מה? ויובע אתה, סליחה, יש את אותה לזה, ויהי כראות אחיו את אליהו, ויאמר אחיו אליו, אתה זה עוכר ישראל? Achav, il dit à Eliaou, c'est toi le, comment dire, le persécuteur d'Israël. Annie, mais ouais, c'est à cause de toi que les gens meurent de faim. Oui, mais attends, c'est à cause de moi. Mais en fait, c'est à cause de toi. Parce que c'est parce que toi, t'as rempli l'idolâtrie partout que moi, j'ai dit ce que j'ai dit. Zatorel Israël, Yomer lo achalti et Israël, ki mata u bet avicha beazavchem et mitzvot Hashem, v'telech acharei ha'be'alim. V'ata, on voit vraiment la kanaout. Eliyahu, il dit, vous avez porté atteinte à Kadosh Baruch Hu, tant pis pour toi, je discute pas avec toi. Eh ben, tu sais quoi? Je discute tellement pas avec toi, que v'ata, שלח כבוד צלעי את כל ישראל אל הר הכרמל ואת נביא הבעל 450 נביאים אנשי אשרה 400 אוכלי שולחן איזבל. Donc il dit rassemble, on va faire une tacharout. Tu sais quoi? Grand happening sur le mont Carmel et fait venir également pas seulement à Israël, mais également tous les Neviim à Baal. Machloket, est-ce qu'ils étaient 450 ou 850? Mais bon, là, Mishané. Vaïgash Eliyahu, et là, Vaïshlach Achav v'chol b'nei Israël, Vaïkbotz et Neviim el Har Karmel. Tu m'étonnes, ça va être le gros happening, tout le monde vient. Vaïgash Eliyahu el kol ha'am, Vaïomer ad matay atem posrim al shete ha'seifim. אם השם האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, ולא ענו העם אותו דבר. Exactement. Depuis le départ, en fait, Eliyahu, il se balade d'endroit en endroit pour que les gens le connaissent un peu. Comme ça, il a préparé le terrain pour le grand show Béar Carmel. Que tout le monde le connaisse. Ça ne s'appelle pas Mored Bamalchut. Ben non. Ça ne s'appelle pas Mored Bamalchut. Il n'a pas essayé de mettre en place une Malchut Acheret. Mored Bamalchut. Mais vous allez vous calmer avec Eliyahu. Il n'est pas Mored Bamalchut. Il est Beseder Gamour. D'abord, il a été envoyé par Akadosh Baruch Hu, donc il a le droit. Vebet. Mored Bamalchut, c'est celui qui soit veut destituer la Malchut et en mettre une autre, ou alors que la Malchut nous a dit de faire A et nous on fait B. Ça, c'est Mored Bamalchut. À la condition que ce que la Malchut m'a demandé de faire, c'est moutard. Si la Malchut, elle me demande de faire quelque chose de assour, eh bien, je le fais pas. Pashut Meod, je vais te donner un exemple. Pashut Meod, la Malchut Israël, elle me dit que, aujourd'hui, hein, en 2020, elle me dit que j'ai pas le droit de traverser au rouge. Zechok Bemedinat Israël. Celui qui traverse au rouge, ou Mored Bamalchut. On n'a pas le droit de traverser au rouge. D'un autre côté, en 2005, la Malchut, elle a dit, il faut démanteler le Gouche Katif et sortir les Juifs de leur maison et les déraciner de chez eux et donner cette terre aux Arabes. Assour d'écouter la Malchut. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu n'as pas le droit de participer au Guérouche de Gouche Katif. Parce que c'est interdit par la Torah. Donc, lorsque la Malchut, elle me dit de faire quelque chose qui est en accord avec la Torah, ou du moins pas en désaccord, je suis obligé d'écouter. Mais lorsque la Malchut, elle me demande de faire quelque chose qui transgresse la Torah, je n'écoute pas. Or, Avodah Zara, si je ne me trompe pas, c'est assur. Ok ? Et donc, tout est mis en place pour la compétition. Yalla. Veigash Eliyahu el kol ha'am veyomer, donc depuis quand est-ce que vous allez continuer à manger à tous les râteliers? Veyomer Eliyahu el ha'am, ani notarti navi la Hashem levadi. Unevia Baal Arba Meod Vechamishim Ish. Eh, c'est pas très cool. Il dit, je suis le seul Nevi Hashem. Non. Ovadia, il en a caché 100. Nakhon? Alors pourquoi Eliaou dit ça? Parce que c'est l'homme échané. Tant qu'ils restent cachés, ils n'ont pas du tout d'influence. Moi, je suis le seul qui me mouille. Ok? Bah, évidemment que quelquefois, la malchoute, elle dit n'importe quoi. C'est pas nouveau, ça, que la malchoute, elle dit n'importe quoi. Mais il y a n'importe quoi qui transgresse pas la Torah, et donc je dois l'obéir. Et il y a n'importe quoi qui transgresse la Torah, et je ne dois pas lui obéir. C'est pas chute. Par exemple, si la malchoute, elle me dit, tu n'as plus le droit de te rassembler en minyan parce que tu dois respecter la distanciation sociale et le confinement, et tu n'as plus le droit d'ouvrir les synagogues et de prier à 10 au même endroit, ça s'appelle n'importe quoi, aval, tu es obligé d'obéir. Mais si la malchoute, elle te dit, tu n'as plus le droit non plus de prier chez toi à la maison, parce que le simple fait de prier chez toi à la maison, c'est interdit, ben ça, non, tu n'obéis pas à la malchoute, parce que tu es obligé de prier. C'est mitzvah. Ok ? Ton avis n'a pas fait l'unanimité des voix, même dans le monde sioniste religieux. Je pense que tu fais allusion à ce que je viens de dire sur le Sirouf Pkouda à l'époque de l'Aitnakout. Bien sûr que c'est, ça n'a pas fait l'unanimité, c'est pour ça qu'il y a eu l'Aitnakout. C'est parce qu'il y a des rabbanim qui ont dit qu'il ne fallait pas être Messaref Pkouda. Mais mon avis n'est pas mon avis. Mon avis, moi j'étais à l'époque, tu sais, j'étais à l'armée moi à l'époque. Donc j'avais pas d'avis. J'avais simplement la chance d'avoir été blessé à ce moment-là, qui fait que de toute façon, j'ai pas pu participer. Baruch Hashem, j'étais 3 semaines avec le pied dans le plâtre à ce moment-là, qui a fait que j'ai pas pu participer, dans tous les cas, à la Hitnatkout. Donc ça, c'était très très bien. Parce que de toute façon, on était décidé avec Matsevet, avec mon unité, on avait décidé que si on nous demandait de faire quoi que ce soit, on était Messaref Kouda. Mais, grâce à Dieu, on n'a pas été obligé de transgresser quoi que ce soit, aucune règle ou quoi que ce soit, puisque j'étais blessé, et que comme j'étais blessé, eh bien, mon unité et moi, on n'a pas été envoyés faire quoi que ce soit. Donc, Baruch Hashem. Quoi qu'il en soit, eh bien, c'est pas mon avis. C'était l'avis de Marat Dehatra. C'était l'avis de Reb Avrum Shapira, Rosh Yeshivat Merkaz Harav, Rav Rashi d'Israël. T'as besoin d'un autre avis? Bekitsour. À ce moment-là, Eliyahu dit, Yalla, au boulot! On va faire un test. C'est quoi le test? Eh bien, voilà. Veitenu lanu shnaim parim veifraru lahem apar aechad veinatrechu veasimu al haetim veesh lo yasimu veani eese et apar aechad unatati al haetim veesh lo asim וקראתם בשם אלוהיכם ואני אקרא בשם השם והיה אלוהים אשר יענה באש הוא האלוהים ויען כל העם ויאמרו טוב הדבר. Donc voilà le test. Et là où il dit, donnez-nous deux bœufs. Deux bœufs. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il dit, donnez-nous? Pourquoi il ne dit pas au prêtre de Baal, amenez un bœuf et moi j'en amènerai un? Non, il faut que ça vienne du Ham Israël. Parce que c'est pour eux qu'on fait tout ça. Donc il faut qu'ils participent. Donc Ham Israël va donner deux bœufs et on va faire deux autels sur le Mont Carmel. On va sacrifier les deux, mais on n'allume pas le feu. Et on verra où le feu va descendre. Celui qui gagne, ben c'est la preuve que le vrai Dieu, c'est chez lui. Et alors, Israël, il dit, voilà, c'est top. Tu ne veux pas lâcher l'affaire, hein? Tu me dis, dina de malchuta dina. Que le din de la malchoute fait din. C'est-à-dire que ce que la malchoute nous dit de faire, ça fait force de loi. Oui, c'est vrai. Lorsque ça ne transgresse pas la Torah. C'est pas chaud, non? Pourquoi tu t'excites? La malchoute, elle est très bien, mais elle est faite d'hommes, et donc elle peut décréter des nouvelles mitzvot, des nouvelles halachot, mais elle ne peut pas annuler les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. C'est meot pashut. Donc c'est pour ça que je t'ai pris comme exemple de traverser au rouge, qui est assour midina de malchuta dina, mais que si demain la malchoute elle m'interdit de faire Shabbat, eh bien, je ne l'écoute pas. C'est pas chute. Non, je ne comprends pas le. Pourquoi c'est tellement compliqué à comprendre. On a une émouna très grande que Medinat Israël, Vemalchut Israël, Zekodesh Kodashim. Il n'empêche que ça ne nous permet pas de transgresser la Torah. Donc, voilà, c'est pas chaud. OK ? Donc, quoi qu'il arrive, voilà le test. Tout le monde accepte, pas de problème. Enfin, moi, j'ai un problème quand même. Parce que faire ce test, c'est Issour de Oraita. Eliyahu, ce qu'il va faire, c'est interdit par la Torah. C'est Chayav Karet. Pourquoi Chayav Karet ? Bah parce que nous sommes à une époque où il y a le Beit HaMikdash. Et il est interdit de faire un sacrifice à l'extérieur du Beit HaMikdash. Donc pourquoi Eliyahu il le fait quand même ? Parce que Eliyahu est un prophète. Et en tant que prophète, il a le droit de faire ce qu'on appelle Hora'at Sha'a. C'est-à-dire de dire aux gens de transgresser une halakha temporairement. Pour les besoins du dévoilement de Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, regardez, l'histoire, elle est complètement folle. Alors, ça y est, on est tout prêt, on a tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai sauté une page. Où est-ce que je suis ? Voilà. Et voilà. Vetapar aechad natati al haitzim ve'esh lo yasim. Ukraten b'shem Elohechem ve'ani ekra b'shem Hashem. Donc, ok. ויאמר אליהו לנביא הבעל, בחרו לכם הפר, האחד ועשו ראשונה, כי אתם הרבים, ויקרו בשם אלוהיכם, ואש לא תשימו. תגידי, vous vous commencez, vous choisissez votre bœuf. Vous êtes les plus nombreux, donc c'est normal que vous commenciez. נכון. בקיצור, donc vous commencez. Et les mecs, ils disent, ok. Donc ils commencent. Et c'est parti. ויקחו את הפר אשר נתן להם ויעשו ויקראו בשם הבעל מהבוקר ועד הצהריים למור הבעל עננו ואין קול ואין עונה ויפסחו על המזבח אשר עשה. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ils font leur truc et de la matinée jusqu'à midi ils appellent Baal et rien ne se passe. Makorepo. Vaï batsaoraim. Vayatel baem Eliyahu. Vayomer. Kirou bekol gadol. Ki Elohim hu. Ki siach. Ki siglo. Vechiderech lo. Oulai yashen hu. Vaï katz. Qu'est-ce qu'il leur dit, Eliyahu? Eliyahu leur dit: non, mais vous parlez pas assez fort, les gars. Eh, Dieu, il est super haut. Peut-être il s'est endormi. Donc, criez plus fort. Et enfin, il prend les gens de Baal pour des débiles. Quoi, les mecs de Baal, ils pensent Bémet que Baal, il s'est endormi et qu'il faut parler plus fort. C'est ça leur conception du divin? Ben, bien sûr que non. Agave, les gens de Baal, ils savent très bien que Baal, il ne va pas réussir à allumer le feu parce que Baal n'existe pas. C'est pour ça que le Midrash nous dit que pourquoi ils répondent favorablement? Parce que le pasouk d'après, c'est de dire, ils te disent, va y créou, ben, va y créou, ben, kol gadol, va y godedou, ke mishpatam, be charavot, ou be ramachim, at shefor damalem. C'est, ils ont finalement accepté l'idée de Eliyahu, et ils ont crié très fort, atal, anenou! Ils ont même pris leurs épées, ils ont tapé les unes contre les autres pour faire plein de bruit. Jusqu'à ce que le sang leur coule des mains. La mamakara. Le Midrash nous dit, parce qu'ils savaient très bien que ça ne marcherait pas comme ça, mais ils avaient mis quelqu'un dans le Misbéar. Ils avaient fait une petite cavité creuse dans le Misbéar pour y cacher quelqu'un avec un briquet. Et, comment on dit, tu sais, le produit pour allumer le barbecue. Et ils avaient dit, donc, toi, ton rôle, c'est que quand on va dire à Baal Adenu, tu mets le zippo, tu allumes, et comme ça, c'est bon. Ça a l'air. Le problème, c'est qu'ils se disent, peut-être ce mec-là, il s'est vraiment endormi. Et Midrash, il dit, non, il ne s'est pas endormi. À Kadosh Baruch Hu, il a envoyé un serpent qui l'a mordu, et il est mort. Mais c'est qui ce mec? Ce mec qui donc sait que Baal ça marche pas, puisqu'il fait tout un tarboula pour faire que comme si ça marche. Eh bien, je vous le donne en mille. C'est qui ce mec qui est dans le Misbéar, vous avez compris? C'est Riel Betaeli. C'est le même Riel du début du cours. Riel montre ici, par sa mort, que ça ne marche pas. Si la Kdusha n'est qu'une Kdusha Artzit, détachée d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle du fascisme. La Kdusha d'Eretz Israël, elle est fondamentale, à la condition qu'elle soit reliée à Akadosh Baruch Hu. Et finalement, Eliyahu Hanavi, il fait son sacrifice à lui. Le feu descend. Vayered ha'esh min ha'shamayim. ויקח אליהו 12 אבנים כמספר 12 שבטים ויקח אליהו 12 שבטי בני יעקב אשר היה דבר השם אליו למור ישראל יהיה שמך ויבנה את האבנים מזבח בשם השם ואז תעלה כבית הסעתיים זרע סביב למזבח ויערוך את העצים וינתח את הפר וישם על העצים ויאמר מילו ארבע קדים מים ויצקו על העולה ועל העצים ויאמר שנו ושנו ויאמר שלשו ושלשו וילכו המים סביב למזבח וגם את התלאה מלמים pour bien montrer que c'est tout mouillé naturellement le feu il peut pas prendre ויהיו בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר השם אלוהי אברהם יצחק וישראל היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך דבריך עשיתי את כל הדברים האלה הנני השם, הנני השם, הנני, וידעו העם הזה, כי אתה השם האלוהים, ואתה הסיבות את ליבם אחורני. ותיפול אש השם, ותאכל את העולה, ואת העצים, ואת האבנים, ואת האפר, ואת המים, ואת התלאה לחיקה. והיה כל העם, ויפלו על פניהם, ויאמרו, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. Chazara Bitshuva général de Am Israël devant le show de Eliyahu. Excuse-moi d'insister, et je sais que ça dépasse le cadre de ce cours, mais les prérogatives du roi ou d'une royauté peuvent entrer en contradiction avec la Torah, comme dans le cas d'un prophète. Désolé. Le roi, il n'a pas le droit de transgresser la Torah. Le roi, il a des prérogatives en tant que roi. Par exemple, il a le droit de tuer quelqu'un qui porte atteinte à la nation sans passer par le Beit Din. Zenachon. Ça, il a le droit de faire. Mais il n'a pas le droit de manuler des mitzvot de la Torah. Mais quand il faisait des corbanot de Beit Hamikdash, ça veut dire qu'il y avait toujours un mec en dessous qui allumait quand c'était pour Baal. Ah ben évidemment. Évidemment. Mais attends, au Beit Hamikdash non plus. Il n'y a pas tout le temps le feu qui tombe du ciel. Au Beit HaMikdash aussi, on allume les corbanotes. C'est-à-dire qu'on ne demande pas toujours un miracle quand on fait les corbanotes. Ni au Beit HaMikdash, ni pour Baal. En général, tu shrites ton animal et tu allumes le feu. C'est-à-dire, donc il n'y a pas besoin de demander à chaque fois un miracle. Là, c'était un truc particulier. Ok ? Une fois que Chazara Bitshuva Generalit, ben Eliyahu, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il ressemble à Moshe. Et donc il dit, bon, vous avez compris que les prophètes de Baal, c'est pourri, yallah, tuez-les tous. Ça nous fait penser évidemment à Moshe, qui lorsqu'il voit le veau d'or, il dit à Yoshua et aux Lévi'im, tuez-les tous. Et ce jour-là, il va tuer 450 des Lévi'im à Baal. Est-ce que toute cette première partie de la vie de Eliyahu, est-ce que ça marche? Ben, on serait tenté de dire ouais, puisque tout le monde a dit Hachem-moi Elohim, Hachem-moi Elohim. C'est où? Donc ça marche. Tchouva, l'eau. Le lendemain de la situation, Isabel, elle promet à Eliyahu de le faire tuer dès qu'elle le voit. En d'autres termes, le royaume, c'est-à-dire sur le moment, a reçu le chiour, mais dès le lendemain, on est redevenu exactement comme on était avant. Les gens n'ont pas abandonné Achav et la Avodah Zara. Ils sont revenus exactement comme ils étaient avant. Il y a une Chazara Bitchouba pour 5 minutes. Ça n'a pas marché. La Sheela, lama, ça n'a pas marché. Et est-ce que Eliyahu peut continuer à remplir son rôle si ça ne marche pas? Eh bien, les amis, ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Shabbat Shalom, les Koulam.
תודה רבה.
חזק וברוך.